Session Deus Caritas Est, juillet 2012. La nouveauté de la foi biblique par Sœur Geneviève.
Donc nous continuons cette présentation de l'encyclique et il y aura certainement des répétitions. Après tout ce qui a été dit de façon brillante, ce sera beaucoup plus simple. Alors, nous allons voir les paragraphes qui concernent la nouveauté de la foi biblique. Benoît XVI dit tout de suite que cette nouveauté se manifeste surtout en deux points qui méritent d'être soulignés, l'image de Dieu et l'image de l'homme. Nous allons donc voir tout simplement la nouveauté apportée par la Bible sur Dieu puis sur l'homme. Et enfin, nous verrons la répercussion que cela peut avoir dans notre vie personnelle. Nous citerons aussi d'autres textes, comme fait Pierre-Olivier, du Magistère, entre autres la catéchèse qu'a fait Jean-Paul II l'année 1999, qui était l'année du Père, en préparation de l'an 2000, et puis un texte que j'aime beaucoup sur la vocation et la dignité de la femme, et puis le texte de Jean-Paul II sur le jour du Seigneur. La Bible nous révèle d'abord que Dieu est unique. Benoît XVI dit « On note que devient de plus en plus clair et plus univoque ce que la prière fondamentale d'Israël, le schéma, reprend par ses paroles. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Il existe un seul Dieu qui est le Créateur du ciel et de la terre et qui est donc aussi le Dieu de tous les hommes. La Bible nous révèle ensuite que Dieu a voulu l'homme pour lui-même, que Dieu aime l'homme. Et nous sommes loin de la croyance de certains en une force cosmique primordiale, impersonnelle, ou de l'idée d'un Dieu comme Père universel, mais qui est dominé par l'arbitraire et ses caprices. Vous savez que chez les Grecs antiques, le bien en tant qu'être suprême et divin était également appelé Père, mais le Dieu Zeus manifestait sa paternité aussi bien à travers la bienveillance que la colère et la cruauté. On retrouve dans l'Odyssée une prière. Père Zeus, aucun n'est plus funeste que toi parmi les dieux. Tu n'as aucune pitié des hommes après les avoir engendrés et abandonnés au malheur et à des douleurs pénibles. On est loin du Notre Père. Donc, même Aristote, nous disait Père Bernard, n'a pas pu imaginer un Dieu amour. Le peuple d'Israël, lui, va peu à peu découvrir cet amour de Dieu à travers le don de la création, mais aussi à travers l'action de Dieu qui le sauve. Dieu révèle peu à peu à son peuple les qualités de sa paternité, qui n'ont rien à voir avec celles de Zeus. Il y a d'abord le choix de ce peuple, qui manifeste un amour de prédilection totalement gratuit. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, si le Seigneur s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moins nombreux d'entre tous les peuples, mais c'est par amour pour vous. Peut-être qu'on peut aussi transposer pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, mais c'est simplement par amour. Cette paternité divine est caractérisée, nous dit Jean-Paul II, par un amour intense, constant, rempli de compassion. Malgré les infidélités du peuple, les menaces de châtiment, Dieu se révèle incapable de renoncer à son amour. À la fois divine et humaine dans ses manières de s'exprimer, cette paternité revêt les caractéristiques habituellement attribuées à l'amour d'une mère qui n'oublie jamais son enfant. Vous connaissez cette expression souvent employée par le cardinal Dalnils, cette expression d'un enfant disant Dieu, c'est un papa qui nous aime comme une maman. Eh bien, c'est ce que reprend Isaïe. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Dieu attend une réponse d'amour de la part de l'homme. Dieu instaure une alliance avec le peuple. C'est lui qui, par amour, en a l'initiative et il désire une réponse d'amour. Et cela, on le trouve dans ce commandement fondamental. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vous savez aussi que Dieu va exprimer son amour à travers les prophètes Osée et Isaïe, en le révélant comme un amour passionné, en utilisant les métaphores du mariage humain. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Le peuple élu est dit l'épouse, avec qui il a scellé l'alliance en lui donnant les 10 commandements. Et toutes les infidélités du peuple sont comparées à l'adultère et à la prostitution. Benoît XVI poursuit, toujours dans ce paragraphe 9, « Dieu aime et son amour peut être qualifié sans aucun doute comme éros. » C'est ce qu'on vient de dire bien souvent depuis cet après-midi. Donc cet amour qui toutefois est en même temps totalement agapé, parce qu'il est gratuit, mais plus encore parce qu'il pardonne. Israël a commis l'adultère, il a rompu l'alliance. Dieu devrait le juger et le répudier. C'est précisément là que se révèle cependant que Dieu est Dieu et non pas homme. Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Te livrerai-je, Israël ? Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Et puis, comme nous l'avons déjà dit, cette passion d'amour de Dieu pour son peuple se retrouve dans le livre du Cantique des Cantiques, dans lequel, nous dit Benoît XVI, s'exprime l'essence de la foi biblique. Oui, il existe une unification de l'homme avec Dieu. Tel est le rêve originaire de l'homme. Mais cette unification ne consiste pas à se fondre l'un dans l'autre, à se dissoudre dans l'océan anonyme du divin. Elle est une unité qui crée l'amour, dans lequel les deux, Dieu et l'homme, restent eux-mêmes et pourtant deviennent totalement un. Celui qui s'unit au Seigneur, dit saint Paul, n'est avec lui qu'un seul esprit. Nouvelle image de Dieu donnée par la Bible. Nouvelle image de l'homme aussi. La Bible nous dit « L'homme est à l'image et ressemblance de Dieu ». Nous venons de le voir et de le revoir. Genèse 1, 26-27, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Jean-Paul II rappelle « Ce passage concis contient les vérités fondamentales de l'anthropologie. L'homme est le sommet de tout l'ordre de la création dans le monde visible. Tous les deux, l'homme et la femme, sont créés à l'image de Dieu. Cette image, cette ressemblance avec Dieu qui est essentielle à l'être humain, est transmise par l'homme et la femme comme époux et parents à leurs descendants. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. » Pour savoir un peu ce que Dieu pensait quand il a créé l'homme, il suffit de reprendre les textes de Sainte Catherine de Sienne, les fameux dialogues avec le Père éternel. Voilà ce que le Père lui confie. « C'est ma providence qui a créé l'homme. Quand, regardant moi-même, je fus épris d'amour pour ma créature et pris plaisir à le créer à mon image et ressemblance, suivant un ordre parfait. Je pourvus alors à lui donner la mémoire pour qu'il conservât le souvenir de mes bienfaits, en le faisant participer de ma puissance à moi, le Père éternel. Je lui ai donné l'intelligence pour que dans la sagesse de mon Fils unique, il connût et comprît la volonté à moi, le Père, distributeur éternel des grâces. Avec un amour de feu, je lui donnais la volonté pour aimer ce qu'a vu et connu l'intelligence. Voilà ce qu'a fait ma douce providence pour que ma créature fût capable de me comprendre et de me goûter et pût jouir de mon éternelle bonté dans mon éternelle vision. Et ce texte pourrait être pris pour chacun de vous, de nous, en se disant, Dieu, pour moi, a éprouvé ce bonheur de me combler et de me combler de son amour. L'homme créé à l'image et ressemblance de Dieu, l'homme est une personne, un être personnel, nous l'avons déjà bien dit, et Jean-Paul II aimait à citer aussi Gaudium et Spes, en disant que l'homme, la femme, être personnel, doivent tendre à la réalisation d'eux-mêmes qui ne peut s'accomplir qu'à travers ce don désintéressé de soi. Le modèle d'une telle interprétation de la personne est Dieu même comme Trinité, comme communion d'amour. Dire que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de ce Dieu, c'est dire aussi que l'homme est appelé à exister pour autrui, à devenir un don. Mais la Bible nous apprend aussi le mystère de la non-ressemblance qu'est le péché. Saint Grégoire de Nyssa écrit « Dieu est amour. Le Créateur a imprimé en nous aussi ce caractère. Si donc celui-ci vient à manquer, toute l'image est défigurée. Le péché s'oppose à l'amour de Dieu. » Et Jean-Paul II explicite davantage cela dans son texte sur la dignité et la vocation de la femme. Dans son sens profond, le péché est la négation de ce qu'est Dieu comme créateur par rapport à l'homme et de ce que Dieu veut pour l'homme depuis l'origine et pour toujours. En effet, en créant l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance, Dieu veut pour eux la plénitude du bien, à savoir le bonheur surnaturel qui découle de la participation à sa vie elle-même. En commettant le péché, l'homme repousse ce don et simultanément, il veut devenir lui-même comme un Dieu qui connaît le bien et le mal, c'est-à-dire qui décide du bien et du mal indépendamment de son Créateur. Il faut également admettre, nous dit Jean-Paul II, que Dieu comme Créateur et Père est ici atteint, offensé. Benoît XVI poursuit. Dans le deuxième récit de la création de la femme, cela peut faire penser à certains mythes anciens, comme celui de Platon, qui expliquait que Zeus avait partagé l'homme en deux pour le punir de son orgueil et de son autosuffisance. Et depuis lors, l'homme recherche sa moitié pour retrouver son intégrité. Non, la Bible nous donne une autre vision du mariage. Jean-Paul II. Le fait que l'homme créé comme homme et femme soit l'image de Dieu ne signifie pas seulement que chacun d'eux individuellement est semblable à Dieu. Chacun de nous est semblable à Dieu. Mais aussi C'est l'homme et la femme créés dans l'unité des dieux, dans leur commune humanité, qui sont appelés à vivre une communion d'amour et à refléter ainsi dans le monde la communion d'amour qui est en Dieu. Et Benoît XVI, dans le paragraphe 11 de cette encyclique, reprend tout cela. Deux aspects sont importants. L'éros est comme enraciné dans la nature même de l'homme. Adam est en recherche et il quitte son père et sa mère pour trouver sa femme. C'est seulement ensemble qu'ils représentent la totalité de l'humanité, qu'ils deviennent d'une seule chair. Et le deuxième aspect, nous dit Benoît XVI, selon une orientation qui a son origine dans la création, l'éros renvoie l'homme au mariage, à un lien caractérisé par l'unicité et le définitif. Ainsi, et seulement ainsi, se réalise sa destinée profonde. À l'image du dieu du monothéisme correspond le mariage monogamique. Le mariage fondé sur un amour exclusif, définitif, devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple. Et réciproquement, la façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour. Alors tout cela, c'est beau, mais en quoi cela peut intervenir sur notre propre vie? Ça sera tout simple. D'abord, notre relation à Dieu, Père. Dans le Deutéronome, on relit « N'est-ce pas lui ton Père qui t'a créé, lui qui t'a fait et par qui tu subsistes ?» Peut-être que nous pourrions le reprendre pour nous. « N'est-ce pas lui ton Père qui t'a créé, qui m'a créé, lui qui m'a fait et par qui je subsiste ?» Est-ce que notre foi correspond à cette nouveauté de la foi biblique? Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu veut nous rendre participants de son bonheur. Notre vie témoigne-t-elle que nous sommes sûrs d'être dans la main d'un Dieu amour, que nous sommes sûrs d'être appelés au bonheur du ciel, que nous sommes confiants en sa divine providence? Nous sommes peut-être trop habitués à cette réalité. Dieu est notre Créateur, mais aussi notre Père, que nous nous émerveillons presque plus. Rappelons-nous la joie d'un saint François d'Assise, ou bien notre Père fondateur témoignait de l'enthousiasme de Mère Marie-Augusta, qui s'émerveillait et bénissait Dieu des attentions de sa providence, et qui ne comprenait pas que l'on reste froid. Si vous éduquez les petits-enfants à la foi, n'occultez pas tout ce mystère de la création. Donnez aux enfants dans la catéchèse cet enseignement sur la création. Il faut qu'ils sachent d'où ils viennent et où ils vont. Et on peut constater, quand on fait de la catéchèse, que des enfants peuvent être très perturbés parce que dans la famille, il y a peut-être un père inexistant. Eh bien, ils sont sécurisés, apaisés, encouragés en découvrant la présence de ce Père aimant, de ce Père miséricordieux. Ces enfants ont parfois des comportements difficiles, ils subissent les échecs scolaires, ils sont repoussés par les autres enfants, ils provoquent l'énervement de certains. Et de faire l'expérience de ce Père miséricordieux, de ce Père qui aime malgré tout, est très important pour eux. Cela les apaise et cela les encourage alors qu'ils sont très tourmentés. Dans notre communauté, nous aimons bien une des saintes qui a été choisie par une de nos sœurs, la bienheureuse Henriette, qui a vécu au XIXe siècle et qui avait beaucoup souffert de l'absence de son père qu'elle n'a jamais connu puisqu'il avait abandonné sa famille. Elle s'est tournée vers Dieu, qu'elle appelait le bon papa. Alors, ce n'est pas que du sentimental, parce que cela a impliqué chez elle un abandon total à Dieu et elle avait cette formule très forte, vouloir ce que Dieu veut, comme il le veut et tant qu'il le veut. D'autres exemples plus concrets encore. Le dimanche, le jour du Seigneur, est pour nous les chrétiens le jour où nous faisons mémoire de la Pâque du Christ, de sa victoire sur la mort. C'est toujours aussi l'annonce du jour éternel, de notre bonheur du ciel. Mais il doit être aussi, nous dit Jean-Paul II, le jour où on fait mémoire de la création, où nous revenons vers le Père Créateur, où nous le louons, le remercions pour le don de la vie. Jean-Paul II écrit « Le jour du Seigneur est par excellence le jour de cette relation dans lequel l'homme élève à Dieu son chant en se faisant la voix de toute la création. Tout est de Dieu. Le jour du Seigneur vient continuellement affirmer ce principe. Le sabbat est là pour rappeler que le cosmos et l'histoire appartiennent à Dieu, que l'homme ne peut se consacrer à son œuvre de collaborateur du Créateur dans le monde sans prendre constamment conscience de cette vérité. Nous en avons vraiment besoin de vivre ces dimanches où on vient en quelque sorte se replonger en Dieu Créateur. Et puis, je vous cite comme d'habitude Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle aussi utilisait cette expression « Papa le bon Dieu ». C'est quelques jours avant sa mort, les sœurs lui disent « Mais si vous mourrez avant d'avoir pu avoir l'extrême onction ?» Vous savez qu'à l'époque, on attendait vraiment le dernier moment pour donner les sacrements. Alors elle dit « Si on me trouvait morte, n'ayez pas de peine. C'est que Papa le bon Dieu serait venu tout simplement me chercher. » Cela implique une grande confiance et intimité avec Dieu le Père. Elle avait aussi une très grande délicatesse d'amour envers le Père. C'est peut-être aussi un exemple pour nous. Le bon Dieu a suffisamment de peine, lui qui nous aime tant, d'être obligé de nous laisser sur la terre accomplir notre temps d'épreuve, sans que nous venions constamment lui redire que nous y sommes mal. Il ne faut pas avoir l'air de s'en apercevoir. Ça, c'est la délicatesse d'amour de Sainte Thérèse. Et puis, son poème « Mon ciel à moi » exprime les dispositions de son cœur. « Mon ciel, dit-elle, est de sentir en moi la ressemblance du Dieu qui me créa de son souffle puissant. Mon ciel est de rester toujours en sa présence, de l'appeler mon Père et d'être son enfant. Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi. Sommeiller sur son cœur, tout près de son visage, voilà mon ciel à moi. » Et il faut savoir que quand elle écrit ce poème, elle est dans l'épreuve de la nuit de la foi. Elle ne sent rien. Et puis elle résume sa petite voix d'amour par ces mots. « La sainteté n'est pas dans telle ou telle pratique. Elle consiste en une disposition du cœur qui nous rend humbles, petits entre les bras de Dieu, conscients de notre faiblesse et confiants jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. » Comme nous l'avons déjà vu, Jean-Paul II a beaucoup insisté dans sa catéchèse et dans sa lettre apostolique sur la dignité de la femme, sur ses premiers textes de la Genèse, pour rappeler l'importance de l'homme et de la dignité humaine et de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Et il dit « Les textes bibliques nous permettent constamment de retrouver le terrain où s'enracine la vérité sur l'homme. » Un terrain solide, inviolable, au milieu des multiples mutations de l'existence humaine. Donc, quel que soit tout ce qu'on peut nous dire maintenant, appuyons-nous sur ces textes. Et je repense à un témoignage d'un jeune père de famille qui se préparait au baptême et qui un jour est arrivé, bon, il venait de très loin bien sûr, il est arrivé un peu éprouvé parce qu'une de ses sœurs venait d'annoncer officiellement qu'elle se mettait en ménage avec une copine. Et cette sœur aussi faisait beaucoup de publicité à la plus jeune qui était encore adolescente en l'encourageant à opter pour des relations homosexuelles parce qu'au moins il n'y avait pas de problème là. Et alors ce jeune père qui venait était quand même perturbé malgré tout ce qu'on pouvait lui dire. Il se disait mais peut-être que c'est elle qui a raison puisque tout le monde fait comme ça maintenant, enfin tout le monde le dit. Et alors on a étudié ces premiers textes de la Genèse. Et sans qu'on en dise davantage, Dieu créa l'homme, il créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et tout à coup, il lève les yeux de son texte et il dit « Mais j'ai tout compris ». Voyez, plongeons-nous dans ces textes et ils sont une lumière pour aujourd'hui. Alors, il faut conclure. Donc cette nouveauté de la foi biblique, c'est vraiment cette révélation de Dieu amour, donc qui sera davantage parfaite en Jésus, le Fils unique. Pour citer encore Benoît XVI, au cours d'un Angélus, lors de la fête de Saint-Augustin, vous savez qu'il aime beaucoup Saint-Augustin, et il reprenait une méditation de Saint-Augustin sur le psaume 104, « Cherchez le visage du Seigneur ». Et Benoît XVI disait, Saint-Augustin souligne que l'invitation ne vaut pas seulement pour cette vie, elle vaut aussi pour l'éternité. La découverte du visage de Dieu ne s'arrête jamais. Plus nous entrons dans la splendeur de l'amour divin, plus il est beau d'aller de l'avant dans la recherche, afin que dans la mesure où croît l'amour, croisse aussi la recherche de celui qui a été trouvé. Telle est l'expérience à laquelle nous aussi nous aspirons du plus profond de notre cœur, dit Benoît XVI. Et je conclurai avec une expression souvent utilisée par Mère Marie-Augusta et que nous aimons chanter. Allez de l'avant dans vos découvertes de l'amour.
Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.